Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
En République démocratique du Congo, plusieurs ménages en milieu rural et en milieu urbain vivent dans l'insécurité alimentaire. D'après les spécialistes, le faible pouvoir d'achat des populations, la baisse de la production agricole et le mauvais état des routes des dessertes agricoles seraient à la base de cette situation. Alors, que faire pour mieux assurer la sécurité alimentaire des populations? Pierre Ongala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en agroalimentaire. C'est quoi la sécurité alimentaire?
Bon, la sécurité alimentaire, comme vous venez de me poser la question, je remercie la Radio Capi de m'avoir donné cette opportunité. Mm-hmm. La sécurité alimentaire part d'un concept. Le concept de la sécurité qui est à la base de la sécurité alimentaire, si je peux donner un exemple, quand une personne a un ventre vide, c'est-à-dire il a faim. Mmh. Et quand il a faim, alors vous comprenez qu'à ce moment-là, cette personne est presque une personne qui est malade.
Personne est en insécurité.
En insécurité. Et puis, ça c'est le concept.
Oui.
Et l'insécurité, il y a l'insécurité alimentaire. L'insécurité alimentaire elle-même c'est quoi? C'est manque de nourriture. Quand quand la personne manque de nourriture, il est réellement dans l'insécurité alimentaire. Mmh. Et cette insécurité alimentaire a trois formes. Il y a l'insécurité alimentaire temporaire, par exemple des personnes qui ont connu la guerre ou une sécheresse, une situation imprévisible. Il y a une insécurité alimentaire cyclique ou saisonnière qui arrive très souvent au même moment de l'année. Celle-là, elle est répétitive. Il y a l'insécurité alimentaire chronique, c'est-à-dire c'est le manque de nourriture constamment, c'est-à-dire une insécurité permanente. La personne n'a pas de revenus, comme vous venez de le souligner.
Mmh.
Alors, dans cette insécurité alimentaire, on trouve des personnes qui sont dans la campagne. Les raisons de l'insécurité alimentaire de la campagne, il y a des gens qui n'ont pas de champs, il y a des prix défavorables aux paysans quand on va acheter les produits agricoles,
mmh.
Ils ont des techniques agricoles dépassées ou faibles pour le rendement, les infrastructures routières insuffisantes, vous l'avez souligné, et puis aussi possibilité de stockage limitée, y compris aussi le climat, ça dans les campagnes.
Mmh.
En ville, on peut retrouver aussi cette insécurité alimentaire, des paysans qui sont en ville, des pauvres, populations fuyant les zones de conflit, familles en quête de services. Et puis nous avons en ville toujours ces néo-urbains grossis, c'est les bidonvilles.
Mmh.
Les citadins démunis vivent un jour au jour le jour, comme nous pouvons le dire en
ville. Par exemple, à Kinshasa, c'est quelle forme d'insécurité alimentaire qu'on rencontre ici?
Bon, la forme d'insécurité alimentaire qu'on rencontre ici sont d'abord qui sont des solutions provisoires. Par exemple, la mendicité, la fouille de décharge, la prostitution, le vol. Les gens qui vivent avec le revenu de ce genre de choses sont dans l'insécurité alimentaire.
Ils sont dans quel type d'insécurité? Quelle forme d'insécurité? C'est cyclique ou chronique hein, ou temporaire?
Toutes les formes se rencontrent ici. Les oui. temporaires comme les cycliques et chroniques se retrouvent quand même ici.
Oui. C'est vrai qu'il y a des gens qui ne mangent pas tous les jours. Hein. Il semble qu'il y a même dans des familles où vous mangez aujourd'hui, demain vous ne mangez pas et le lendemain ainsi de suite. Hein.
Nécessairement, ces gens-là tombent dans le cadre de l'insécurité alimentaire. Parce que nous allons voir la définition de la sécurité alimentaire elle-même, c'est quoi?
Mm-hmm.
Bon, la sécurité alimentaire est l'accès de chaque individu, à chaque instant, à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active. Donc, un individu doit avoir l'accès à tout instant à une alimentation suffisante pour mener une vie saine et active. La sécurité alimentaire, d'abord, n'est pas collective, elle est individuelle. Comme vous là-bas, vous et moi, si nous mangeons à notre faim chaque jour, et que les autres qui sont avec nous ensemble ne mangent pas, et ne sont pas en sécurité, nous ne sommes pas en sécurité.
Mmh.
Donc la sécurité alimentaire, c'est individuel, ce n'est pas collective. La sécurité alimentaire aussi n'est pas ponctuelle, c'est-à-dire... Vous mangez ici pour ne pas manger le... Non. Mmh. La sécurité alimentaire doit durer dans le temps.
Donc vous devez bien manger chaque jour.
Du 1er janvier au 31 décembre. Vous êtes sûr que vous devez manger à votre faim, dans les conditions voulues. Et la sécurité alimentaire aussi impose une alimentation équilibrée. Équilibrée, je veux dire, il y a là-bas les protéines, les calories, y compris les lipides,
mmh.
plus les nutriments. que nous n'aurons pas le temps de développer ici.
Mmh.
Alors, quand des personnes se trouvent dans ces conditions-là, ces gens-là, on peut le respecter parce qu'ils vont mener une vie saine et active. Et nous allons dire que ces gens vivent, mais ne survivent pas. Ceux qui survivent là sont dans l'insécurité. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire.
Mmh.
Alors, pour répondre à la question qui a été posée, comment améliorer la sécurité alimentaire
de la population? On a l'impression que beaucoup, un bon nombre de populations au Congo ne sont pas sécurisées du point de vue alimentaire. Alors, comment mieux les sécuriser aujourd'hui?
Ah, là, vous avez cité le mot Congo, c'est-à-dire la RDC.
Mmh.
Alors là, il faut partir au niveau de la politique économique du pays. Alors, pour faire cette politique économique du pays, l'État doit assurer la sécurité alimentaire, c'est-à-dire être en mesure de garantir, d'une part, une disponibilité alimentaire suffisante pour que toute la population, et d'autre part, un accès individuel à des revenus couvrant le besoin alimentaire de chaque personne. Tout, chaque habitant de la RDC.
Mmh.
Alors, à ce moment-là, il revient à l'État s'il n'a pas la possibilité de couvrir pour leur accès et leur disponibilité, de faire peut-être appel à des organismes d'aide internationale qui peuvent aider, par exemple, pour les populations qui sont en insécurité alimentaire à cause d'une guerre ou d'un conflit. À ce moment-là, on fait appel à des situations exceptionnelles pour pouvoir aider ces populations. Mais sinon, c'est la politique agricole qui doit être mieux gérée pour que chaque personne puisse avoir la disponibilité, l'accessibilité due à la production. Parce qu'il y a trois facteurs là-bas. Il faut qu'il y ait la productivité, c'est ça, c'est la politique de l'État. Il faut aussi qu'il y ait la disponibilité, c'est-à-dire les aliments sont disponibles. Il faut aussi qu'il y ait l'accessibilité, c'est-à-dire la personne a l'accès facile aux aliments dont il a besoin pour sa vie.
Il semble qu'il y a certains produits alimentaires qui pourrissent dans nos villages à travers le pays parce qu'il n'y a pas des routes, des dessertes agricoles pour les acheminer dans les grands centres de consommation.
De toutes les façons, les routes sont très nécessaires parce que ce sont ces routes qui font que les personnes peuvent se déplacer d'un point à un autre. La même chose aussi pour les aliments ou le produit agricole. C'est très important. S'il n'y a pas de route, comment on peut écouler les produits agricoles? Ça, c'est un. De deux, les opérateurs économiques qui s'emploient pour produire vont avoir leur manque à gagner. Quand quelqu'un a investi beaucoup dans l'agriculture, il a produit, il n'a pas moyen d'évacuer, il y aura un manque à gagner, c'est qu'il y aura perte. Et de plus en plus, nous aurons moins de producteurs agricole et nous allons continuer dans l'insécurité alimentaire.
Mmh. Et souvent, on a entendu parler de l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce que cela veut dire?
Ah, l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire que le pays produit suffisamment. De telle manière qu'il ne peut pas faire appel, par exemple, à des produits agricoles de l'extérieur. Là, on est dans l'autosuffisance alimentaire.
Et c'est le cas aujourd'hui dans notre pays?
Bon. Je ne saurais pas vous dire oui ou non parce qu'il y a des cas, je crois que la sécurité alimentaire prime, s'il y avait l'autosuffisance alimentaire, ça allait diminuer. Et je ne veux pas dire aussi que l'autosuffisance alimentaire est une solution à la sécurité alimentaire, non. Parce que la sécurité alimentaire en ville demande de revenus. Ici, je peux donner des exemples d'autosuffisance alimentaire.
Mmh.
Nous avons de supermarchés, des alimentations, où il n'y a plus de produits agricoles.
Des produits qui viennent de l'extérieur,
l'extérieur.
Et qui ne sont pas produits.
Non, oui. Mm. Bon, nous avons aussi nos marchés qui sont pleins de produits qui viennent des provinces. Mais quand les gens, même s'il y a des produits à côté, des dépôts de corset de manioc, de maïs, mais ils n'ont pas l'argent.
Le pouvoir d'achat.
Donc, l'autosuffisance alimentaire ne donne pas lieu à la sécurité alimentaire. Vous pouvez voir des dépôts de plein de produits alimentaires ici, ou de produits agricoles, mais les gens n'ont pas de revenus, ne peuvent pas avoir accès pour l'achat de ces produits-là. Donc nous n'allons pas dire qu'il n'y a pas d'autosuffisance alimentaire. Il y en a. Les aliments, les produits agricoles sont là, mais les gens n'ont pas de moyens. Mais moi, je parle de sécurité alimentaire par rapport à la faim, comme je vous ai dit, que le ventre ne soit pas vide.
Donc, c'est-à-dire manger tous les jours à sa faim.
À sa faim, et un aliment équilibré.
Voilà. Nous avons une auditrice en ligne, Adrienne Amouyete, qui nous appelle de Lubumbashi. Vous voulez également participer, appelez-nous au 081-890-6394.
Vous voulez dédier une chanson à ceux qui vous sont chers? Un espace vous est réservé. Samedi, dimanche, 9h à 10h, heure de Kinshasa, Karine Ganimbaya reçoit et diffuse vos dédicaces. Pour participer, écrivez-nous à dédicaces@radiocapi.net et demandez une chanson et nous nous ferons le plaisir de vous faire plaisir. dédicaces@radiocapi.net.
Comment améliorer la sécurité alimentaire des populations? Adrienne Amouyete, vous nous appelez depuis Lubumbashi au Katanga. Bonjour.
Bonjour Jody, Daniel. Bonjour Monsieur Pierre Ngala.
Oui.
On vous écoute, Adrienne.
Oui, moi j'ai des questions à poser. J'aimerais savoir quelle différence y a-t-il entre l'insécurité alimentaire temporaire, cyclique et chronique. Et ma deuxième question est que j'aimerais demander à Monsieur Pierre quelles sont les meilleures stratégies pour mieux lutter contre l'insécurité alimentaire ici chez nous en RDC. Merci Jody.
Bien, merci Adrienne. Pierre Angala.
Oui, merci de la question. J'ai parlé de l'insécurité alimentaire. Bon, je vais encore revenir sur le mot l'insécurité alimentaire.
Elle demande la différence entre l'insécurité temporaire, cyclique et chronique.
Bon, je viens dire ceci. Le mot temporaire veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a un phénomène aléatoire qui est comme une guerre, comme une sécheresse, qui était imprévisible. Et qui arrive comme ça, les gens qui étaient en paix se dispersent dans la forêt, et comme à l'est du pays, ces gens ont abandonné leurs champs.
Les déplacés, oui.
Les déplacés, là, ont abandonné leurs champs. Ce sont des organismes internationaux comme PAM qui arrivent à leur donner à manger. Mmh. Nous ne pouvons pas dire que ces gens-là se trouvaient avant dans l'insécurité alimentaire. Ils se retrouvent maintenant dans l'insécurité alimentaire parce qu'il y a un phénomène de guerre qui est arrivé. Ils ont abandonné leurs champs. Mmh. Bon, pour la sécurité cyclique, j'ai parlé des saisons. Bon, il y a des gens qui, pendant la saison de pluie, cultivent, mais ne cultivent pas suffisamment. Ils ont cultivé, chez le paysan, ils ont leur quantité de quelques tonnes, ou je ne sais pas de quelques kilos. Mais arrivé au milieu de l'année, ils ont peut-être vendu la grande partie pour avoir un peu de revenus. Mais avant même qu'ils arrivent à s'aimer pour l'autre saison, ils se trouvent dans la situation où ils n'ont plus de nourriture. Et le peu de moyens qu'ils avaient même vendu leurs produits, là,
ils ont déjà tout dépensé.
Alors, ils se retrouvent dans une... Et cela se répète presque chaque année.
Là, c'est un problème de gestion.
Gestion et des niveaux de compréhension même des personnes.
Oui.
Parce qu'ils doivent comprendre, mais ils ne trouvent pas de solution. Chaque année, on les trouve dans le même état de sécurité alimentaire. Alors, j'ai parlé de l'insécurité chronique. C'est ce dont je venais de parler. Quelqu'un qui se donne à la mendicité, par exemple. Il ne faut pas dire qu'il aura des solutions.
Il le fait pour manger, pour avoir de quoi manger.
Oui, parce qu'il n'y a plus d'autre solution que mendier. Et bon, il y a d'autres personnes qui se donnent, par exemple, pour fouiller les charges publiques, là. Mmh. Ces gens-là.
Ou la prostitution.
Ou la prostitution.
Qui se donnent pour avoir de quoi manger.
Voilà. Mmh. Voilà, c'est de telles choses-là. Ces gens-là ne sont pas sûrs qu'ils vont gagner leur vie et convenablement un jour. Et ça reste presque chronique parce que. Une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, ça se répète. Alors, pour moi, ces gens qui vivent dans des états comme ça sont considérés comme ils sont dans l'insécurité chronique. Bon, quant aux stratégies, par exemple, les stratégies, c'est quoi? Stratégie, c'est... nous devons penser à améliorer notre agriculture. Quand nous allons améliorer notre agriculture, il y aura abondance sur le marché. Et quand il y aura abondance, s'il y a plusieurs personnes, il y aura concurrence.
Et quelle est la situation de notre agriculture aujourd'hui? Quels sont les vrais problèmes, les défis?
Notre agriculture d'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Parce que distribuer de où des semences, comme je vois, on donne aux paysans là, après, ils n'ont pas de source de trouver ces mêmes semences, c'est dépassé. Mmh. Il faut adapter. La meilleure agriculture pour le moment, doit être conçue de cette manière. Moi, je pense de ma façon. La première des choses, il faut que des personnes aient des sciences. Donc, ce sont des scientifiques. C'est-à-dire les gens qui possèdent les sciences agronomiques. Alors, deuxième chose, il faut qu'ils possèdent la technologie. Quand les gens là ont vraiment la technologie de pointe ou la technique de pointe. Et la troisième chose, il faut innover. Mais si vous regardez notre agriculture, les paysans n'ont pas de notions scientifiques sur l'agriculture.
Sont-ils encadrés ou pas?
Non, même s'ils sont encadrés, ils ne peuvent pas aller au-delà de ce qu'ils avaient hérité de leurs ancêtres ou de leurs parents. Donc, il y a des facultés qui, à notre pays, il y a des facultés qui donnent des sciences agronomiques. Par exemple, ces gens qui ont fait ces sciences-là sont capables de produire. Et ils ont aussi la technologie. Ils peuvent aussi innover. Et nous devons aussi, pour améliorer notre agriculture, passer par la voie que les autres pays avaient adoptée. Chez nous, l'agriculture, par exemple, domine. Et vous avez 70% des paysans qui sont dans l'agriculture. Et on allait avoir l'abondance, mais on n'en a pas. Mais hier, on a peut-être 2% ou 5% des gens qui sont dans l'agriculture, mais il y a de l'abondance.
Qui produisent sérieusement.
Sérieusement. C'est parce qu'ils appliquent ce que je venais de dire tantôt là. Il y a la science, il y a la technologie, il y a l'innovation.
Bien, un auditeur en ligne, Clément Mouya, depuis Mbujimaï. Bonjour.
Oui, bonjour, Jody. Bonjour, l'invité.
Quelle est votre question?
Oui, je voudrais un peu donner un peu mon point de vue là-dessus.
Oui.
Les agriculteurs produisent, mais ils ont un peu une difficulté d'acheminement de cette marchandise dans de leurs produits vers le centre de consommation. J'étais dans les Bandoulous dernièrement. Ils produisent sérieusement du maïs, mais ils n'ont pas les voies et moyens pour les acheminer dans le point de vente. Imaginez-vous, un sac de maïs peut coûter dans le Bandoulou 19 000 francs, mais le même sac de maïs à Mbujimaï peut coûter 120 000 ou 125 000 francs. Voilà un peu la grande difficulté. Et je voudrais vous poser la question à l'invité. Ils ont là pour lutter contre l'insécurité alimentaire. Il est entendu que c'est très correct. Mais quels sont les voies et moyens qu'ils ont pu mettre en compte et entrer avec le gouvernement pour que le peuple congolais ne puisse pas souffrir à l'insécurité alimentaire? Voilà un peu ma plus grande préoccupation.
Merci Clément. Jean-Louis Efoloko nous appelle d'Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oui, Jean-Louis.
Cette émission, oui.
On vous écoute. Hein.
Je suis très intéressé à cette émission. Je suis passé dernièrement à Grand Témoin. Et je vous dis, et je vais même dire que, il y a un des chantiers qu'on a oublié, c'est l'agriculture.
Jean-Louis, dommage. Jean-Louis, la qualité de la communication n'est pas très très bonne. Je vais peut-être vous demander de vous déplacer ou tenter de nous rappeler plus tard parce que là, on n'arrive pas à saisir correctement ce que vous voulez dire. Désolé. Alors, Monsieur Pierre Ongala, vous avez suivi la question de Clément Mouya qui nous dit, il était dans la province du Bandundu, un sac de maïs là-bas, ça coûte 19 000 francs congolais, mais en Bujima, c'est 120 000 francs congolais parce que il n'y a pas les voies d'accès, donc on ne sait pas écouler ces marchandises facilement.
Oui, j'apprécie ce qu'il vient de dire.
Et il dit à vous, vous avez sûrement travaillé avec le gouvernement, qu'est-ce qui est prévu pour résoudre
ce problème? Bon, je vais d'abord répondre pour ce qui est pour lui abandonner. Maintenant, nous sommes dans plusieurs organismes partenaires. Notre production agricole dans le pays ne peut pas peut-être se vendre dans d'autres pays parce que la qualité même de notre production là. Nous, la pression, nous voyons que nous avons du maïs. Ça a été... quel type de maïs et quelle saison on a récolté ce genre de maïs et quel a été le taux d'humidité et quelle a été la conservation et beaucoup de choses entrent en ligne pour que la qualité d'aliment soit prise en compte. Le problème chez nous, c'est que notre service d'hygiène qui devait peut-être s'occuper de ça, ne s'occupe pas tellement de ce problème. On s'occupe surtout de l'extérieur. Vous voyez, par exemple, nous avons du riz qui arrive de l'autre côté. On nous dit que l'OCC a détruit autant de sacs de riz, autant de sacs de... Et pourtant, on en a besoin. La même chose, même si nous, ce que nous produisons à l'intérieur, nous ne pouvons pas dire d'emblée que tout est bon pour la consommation. Il y a des services qui devaient peut-être s'occuper pour nous dire que c'est prêt à être consommé ou pas. Donc,
oui, ça c'est un autre problème. Mais généralement, le maïs qui vient du Bandundu, c'est la qualité est bonne ou pas?
Non, jusque-là, je ne dis pas qu'elle n'est pas bonne. Elle est bonne parce que les gens consomment.
Oui, alors mais le problème maintenant, c'est les voies d'accès, les routes pour acheminer ces marchandises vers le point de vente. C'est là où se pose le problème.
Bon, à mon avis, je sais qu'à un moment donné...
Parce que d'après Mouya, il y a beaucoup de produits qui pourrissent dans nos provinces, dans certaines localités, parce qu'on ne sait pas aller les vendre ailleurs.
Bon, je ne saurais pas insister sur ce point-là parce qu'on parle de pourrir. Quand vous allez même sur place dans ce milieu, vous trouverez que les paysans meurent de faim et même ne sont pas en bonne santé. Vous trouverez les gens dont vous parle là-bas. C'est comme je venais de dire, le peu qu'ils ont eu, qu'ils ont récolté, le peu, là, ils mettent sur le marché. Et le reste de la vie, ils ne vivent pas. Alors vous allez me dire qu'il y a une bonne production, je ne sais pas. Comme moi, je n'ai pas été dans son expérience, il est difficile que je puisse répondre à sa place, mais je sais bien que il y a production et production.
Il y a production et production. Alors, c'est-à-dire que ces gens-là qui produisent eux-mêmes, ils mangent pas bien. C'est ce que vous voulez dire, hein? Ils mangent pas bien, c'est ce qui fait qu'ils sont en insécurité alimentaire.
Oui, parce que jusque-là, personne ne dispose de statistiques. De tout ce qu'on vous dit là, non, on a produit autant, ça pourrit. Je n'ai pas de statistiques vraiment de quantité de maïs ou de tonnes de maïs qui sont pourris. Mmh. Pour là, on allait faire la part des choses que voilà, on a cultivé là-bas. On a quelqu'un a fait une expérience une fois, il peut croire que c'est pareil toute l'année.
Oui. Christian Gabou, vous êtes à Kpandroma. Bonjour.
Bonjour, j'ai dit Kachama. Bonjour, Lévité.
Et quelle est votre question?
Quel est l'impact de la sécurité alimentaire? Merci.
Une brève question. Quel est l'impact de la sécurité alimentaire? Monsieur Pierre Ongala.
Quand il y a la sécurité alimentaire, quand quelqu'un ne mange pas tout droit, il va vers la mort. Et puis, quand quelqu'un ne mange pas, on nous dit que le ventre affamé n'a point d'oreille. L'impact aussi, quand quelqu'un ne mange pas très bien, et il ne peut pas fournir un effort physique. Au même moment, l'effort mental aussi. Et nous avons la baisse même de qualité de l'enseignement. Quand l'enfant rentre de l'école, ne mange pas, le lendemain, il se trouve à l'école. Tout ce qu'on est en train d'enseigner à l'enfant, ça n'entre pas. Donc, il y a plusieurs cas dont vous citez sur la sécurité alimentaire.
On a suivi dernièrement, il y a un programme de PAM, on donne la nourriture dans les écoles, comme ça les enfants mangent à l'école, c'est aussi une façon d'attirer beaucoup d'enfants. Les parents peuvent ainsi envoyer les enfants à l'école.
C'est une solution. Mmh. Et un autre impact, on ne pouvait pas à notre niveau ici, et donner aux petits-enfants de 0 à 5 ans la vitamine A ou quelque chose comme ça. La vitamine A, ça se trouve dans la plupart de nos produits que nous sommes en train de consommer. Vous et moi, vous n'avez pas, je ne sais pas à quelle année vous avez pris la vitamine A. C'est parce que votre aliment est équilibré. C'est une conséquence aussi. Il y a des choses qui pouvaient... Et vous, combien d'enfants à qui on a donné de la vitamine A? Et on a payé ça sur l'argent. Alors qu'on pouvait les trouver à la portée de la main en mangeant certains produits agricoles qui sont à notre portée.
Alors, M. Pierre Ongala, quelle est la solution? Comment améliorer la sécurité alimentaire aujourd'hui?
La sécurité alimentaire, comme je l'ai dit, il faut passer par la production agricole. Il faut augmenter la production.
Il faut augmenter la production agricole.
Oui.
OK. Et à part ce point-là?
La production agricole, c'est-à-dire, moi j'entends par là, il y a des cultures vivrières, il y a le côté élevage aussi. Et il y a aussi le côté maraîchère, culture maraîchère. Mmh. À part ça, et créer des emplois, parce qu'il faut avoir des revenus pour avoir accès à payer les aliments pour la consommation. Et à cela aussi...
Réhabiliter les routes de dessert agricoles.
Tout à fait, ça c'est économique. Ce n'est pas exclu, parce qu'on ne peut pas partir d'un point à un autre s'il n'y a pas une route.
Vous avez une idée actuellement, quelle est la part du budget consacrée à l'agriculture?
Non, nous sommes au mois de décembre, le budget d'une manière officielle n'est pas encore promulgué,
Bon, je veux dire le budget de cette année qui est en train de finir.
Non, en tout cas, pour l'agriculture, c'était estimé à 3,6.
3,6. Hein. Alors donc, pour améliorer la sécurité alimentaire, donc cela va exiger qu'il faut revoir un peu à la hausse.
Normalement, il y a eu une réunion qui s'était tenue, je crois, en Tanzanie, à Arusha. C'était prévu que le chaque gouvernement au niveau de l'Afrique puisse au moins prévoir 10% des budgets pour l'agriculture. Bon, il y a des pays qui sont en train d'arriver à ce point-là, d'autres non pas. Il y a plusieurs raisons. Chaque pays a ses problèmes spécifiques et propres. Mais chez nous, nous ne sommes pas encore arrivés à 5%.
Bien. Pierre Ongala, expert en agro développement, merci. Nos meilleurs voeux et à la prochaine.
À vous autant aussi. Je souhaite aussi meilleurs voeux à toute l'équipe de Radio Okapi.